président Nicolas Sarkozy, avec ses ministres, il est en costard-cravate. Donc moi, je suis en présence de ministres, je suis en présence des saints de Dieu, donc je me suis fait beau. Ah, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et si vous n'êtes pas encore dans la joie, avec ce que je vais vous annoncer, vous allez être dans la joie d'ici la fin de la matinée. Ouh, mais ça tombe bien que le pasteur John m'a demandé de prêcher parce que j'avais un message qui tournait en moi depuis quelques semaines. Et vous savez que cette année, nous parlons de la valeur de l'être humain. Nous parlons de la valeur que vous avez, vous et moi, aux yeux de Dieu le Père. Et le message qui tournait en moi depuis toutes ces semaines, c'est un message sur la gloire de Dieu. Ce matin, j'ai envie de vous parler de la restitution de la gloire de Dieu. Ouh, ça commence. La restitution dans la gloire de Dieu. Dans la Bible, ce livre a un sujet principal qui s'appelle la rédemption. Ce livre a un personnage principal qui s'appelle le Rédempteur ou Jésus-Christ. Mais le cœur de l'histoire, c'est vous et c'est moi. Vous êtes au cœur de l'histoire de la Bible, vous êtes au cœur du plan de Dieu, vous êtes au cœur de son essence, le cœur de ces livres, c'est vous et moi. Il y a 1189 chapitres dans ce livre qui s'appelle la Sainte Bible et il y en a seulement 4 qui ne parlent pas du fait que Dieu veut te ramener auprès de lui. Les deux premiers, avant la chute, il parle du fait que tu as été créé dans la gloire. Et les deux derniers, dans l'Apocalypse. Mais les autres, les 1185 autres chapitres, parlent du fait que Dieu veut que tu viennes à lui. Donc nous allons voir comment Dieu a procédé pour que tu puisses revenir à lui. Comment Dieu a procédé pour que tu sois restitué dans la gloire qui est la sienne. Et j'aimerais qu'on ouvre en psaume 8. Parce que dès le commencement, dès la création, nous avons été créés dans la gloire de Dieu. Et nous allons voir ça dans le psaume 8, à partir du verset 4. Et ce psaume 8 parle du fait que la gloire de Dieu était dans la création. La gloire de Dieu, en d'autres termes, la présence de Dieu. La présence intrinsèque de Dieu, sa nature et son caractère qui sont glorieux était présent à la création. À partir de verset 4, psaume 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Donc l'homme, ici qu'on pourrait traduire par der Mensch en allemand. L'être humain, l'homme ou la femme, les deux. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de quoi? Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc ici, ça part de la création et la création de l'être humain. Nous avons été créés selon la Genèse à la ressemblance et à l'image de Dieu et par-dessus tout, il vous a couronné de gloire. Et cette gloire nous permettait dans le jardin d'Éden d'avoir la communion avec Dieu le Père. Ça, c'est la gloire de Dieu. Il vous a couronné pas de pierres précieuses, pas d'or, pas d'argent, mais bien plus que cela, la valeur la plus importante qui existe dans les cieux, la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu. Vous avez été créé dans cette gloire. Ça, c'est votre valeur aux yeux de Dieu, c'est que vous avez été créé dans la gloire, dans sa gloire. Hallelujah. Donc, dès le commencement, chaque fois que Dieu créait quelque chose, dans Genèse chapitre 1, chaque fois qu'il disait « crée la lune », il a créé le soleil, il a créé les astres, il a dit « c'est bon ». Et au moment où il a créé l'être humain, il a dit, c'est très bon. Aux yeux de Dieu, vous êtes une très bonne créature créée à son image et à sa ressemblance. Ça, c'était le dessein. Ça, c'est la Genèse, le livre des commencements. Voilà la conception de l'être humain aux yeux de Dieu, c'est vous avez été créé dans sa gloire. Mais nous savons tous que cette gloire n'a pas subsisté. Il y a eu en Genèse chapitre 3 la chute de l'homme. Et pour cela, j'aimerais que nous allions en Romains chapitre 3. Et cette gloire qui devait rester sur nous, sur la race humaine, n'a pas pu rester. Oh, c'est un verset qu'on le connaît bien, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, vous allez avoir une nouvelle perspective de ce verset. Romains 3, verset 23. car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien ont péché? Tous ont péché. Et de quoi sommes-nous privés? De la gloire de Dieu. En d'autres termes, le péché nous prive de la gloire. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que tous ont péché, et donc nous sommes tous privés de cette gloire, mais cette gloire était dès le commencement. Donc le problème que Dieu devait résoudre, c'est de prendre ce péché, de fixer ce problème du péché pour que nous soyons restitués dans sa gloire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand on parle de la chute de l'homme, de quoi sommes-nous déchus exactement? Nous sommes déchus de la gloire de Dieu. Mais ça, ce n'était pas le projet de Dieu. Dans Psaume 8, nous voyons qu'il nous a établis dans sa gloire. Il nous a établis dans sa présence. Il nous a établis dans le fait que nous avions cette communion directe avec lui. Adam pouvait parler avec lui. L'Esprit de Dieu venait dans le jardin. Il y avait la communion, l'intimité avec le Seigneur. Mais le péché nous a privés de cette intimité. Le péché nous a privés de cette gloire. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. Et Dieu a mis un plan en place. La Bible dit avant la fondation du monde. Dieu avait mis en plan en place le plan de la rédemption. Plan de la rédemption, session 2, des fondements du croyant, si jamais. Il a mis un plan. Le plan de la rédemption. Et ce plan avait un objectif ultime. C'est que toi et moi soyons restitués dans sa gloire. Dans sa présence. Mais sa présence, comme nous le savons, elle est sainte. Il est trois fois saint, le Seigneur. Et pour ça, même aucune trace de péché pouvait rester pour que nous soyons restitués dans sa gloire. Et cette réalité était telle, ce qui s'est passé dans le jardin était tel. Ce péché avait une telle catastrophe, c'était une telle trahison que nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui a voulu voir la gloire de Dieu. Cet homme, c'est Moïse. Et Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. Il était là, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire !» Et vous savez qu'il était en train de mener le peuple depuis l'Égypte jusqu'en Canaan, et il y avait des camps. Ils faisaient des camps, ils étaient dans le désert, et en dehors du camp, il y avait ce qui s'appelait une tente d'assignation. Et la tente d'assignation, c'est là où ils pouvaient rencontrer l'Éternel. Mais quand Moïse, lui, rentrait dans la tente d'assignation, il y avait une colonne de nuée dans Exode chapitre 33. La colonne de nuée était comme ça sur la tente d'assignation. C'était un symbole de la gloire de Dieu. Quand Moïse entrait, il entrait dans la tente d'assignation et le peuple était à l'extérieur de la tente. Ils louaient tous parce que la présence de Dieu était tellement forte qu'ils ne pouvaient que faire une chose, c'est louer Dieu. Et Moïse a demandé plus, il a dit, « Seigneur, je veux plus, fais-moi voir ta gloire. » Mais Dieu lui a dit une chose, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. Il a dit, « Tu ne peux pas voir ma gloire. Tu ne peux pas voir ma face. » Tu peux voir seulement des petites bribes de ma gloire, mais ma gloire entière, dans sa splendeur, dans sa magnificence, tu ne peux pas la voir parce que celui qui voit ma face va mourir. Et nous voyons un exemple dans le Nouveau Testament. Quand il y avait Ananias et Saphira, lorsqu'ils n'ont pas donné tous les biens quand ils avaient vendu leur champ, ils ont été morts directement. La sainteté de Dieu, mes amis, certaines fois en tant que chrétien, on ne la conçoit pas bien, mais je peux vous dire que le peuple juif comprend ce que c'est la sainteté de Dieu. Parce qu'il y a le mot Yahvé, quand on traduit le tétragramme, on le traduit par Yahvé. Mais les Juifs ne le prononcent même pas, tellement Dieu est saint. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de la gloire de Dieu comme ça. Et Moïse demandait cela, mais Dieu a dit, je ne peux pas te le donner. Tu ne peux pas voir ma face, sinon tu vas mourir. Et après, ça c'est en Exode 33, Exode 40, il y a la construction du tabernacle. Pour vous montrer que le péché nous a vraiment privés de la gloire de Dieu, le Saint des Saints. Donc il y avait le tabernacle, il y avait le parvis, là où tout le peuple pouvait se rencontrer. Il y avait le lieu saint réservé au sacrificateur et le lieu très saint réservé à qui? Au souverain sacrificateur, donc à Aaron. Il n'y a que Aaron qui pouvait entrer dans le saint des saints, mais il devait faire quoi? Il devait se purifier avec le sang des animaux pour pouvoir aller dans cet endroit. Donc il y avait un rideau. Le rideau, c'est ce qu'on a vu dans Romains 3, chapitre 23. Le rideau, c'est ce qui nous prive de la gloire de Dieu, et ce qui nous prive de la gloire de Dieu, c'est le péché. Comme pour vous dire que nous avons réellement été privés de cette gloire. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a décidé que cette gloire nous soit restituée. Est-ce que quelqu'un connaît les câlins de Pasteur Laura? Pasteur Laura, viens. On se fait un câlin. En général, elle serre fort et j'arrive plus à respirer. Mais le cœur de Dieu, il veut te serrer fort comme ça. L'Éternel avait envie de serrer Moïse comme ça. Mais il a dit, Moïse, je ne peux pas. Je vais te consumer. Ma gloire est tellement magnifique. Ma présence est tellement sainte. J'ai envie de te serrer dans mes bras. J'ai envie, mais je ne peux pas. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il veut nous restituer dans cette gloire. C'est pour ça qu'il veut nous restituer dans sa présence. Et pour ça, il a mis un plan. Et ce plan se passe en trois étapes. Première étape, rédemption. Deuxième étape, sanctification. Troisième étape, glorification. Rédemption. Si on continue, Romains 3, 23, et si on continue le verset, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais ça continue. Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et ils sont comment ? Est-ce qu'il faut payer ? Non, non. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. En d'autres termes, ce n'est pas le fruit de tes efforts, c'est le fruit de son effort qu'il a fait pour toi, c'est sa grâce. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption. Par quel moyen ? Rédemption. Donc le plan que Dieu a mis en place pour que nous soyons restitués dans sa gloire, c'est le plan de la rédemption. Souvenez-vous qu'il fallait qu'il traite ce péché et pour que nous soyons plus privés de cette gloire. C'est ça le problème. Donc, la rédemption. Comment peut-on définir la rédemption ? Je vous avais dit il y a quelques semaines, lorsque j'avais précisé, que la rédemption, c'est une restauration des biens que nous avons perdus en Éden. Et un des biens que nous avons perdus en Éden, c'est la gloire. Une autre chose pour la rédemption, c'est récupérer un bien par un achat. Vous récupérez quelque chose, mais vous devez l'acheter. Je vous donne une histoire. Il y a un petit garçon, il avait un bateau. Il jouait avec son bateau, avec son papa, et puis c'est un petit bateau télécommandé. Mais un jour, malheureusement, le papa s'en va. Et le petit garçon, il continue à jouer avec son bateau, mais le vent commence à emporter son petit bateau, modèle réduit, et il perd son bateau. Triste histoire. Jusqu'au jour où il se balade. Il se balade dans la ville comme ça, et il voit un bateau. Il voit un bateau dans une vitrine, il fait « Mais c'est mon bateau !» Et il était chez un antiquaire. Il rentre chez l'antiquaire, « Monsieur, c'est mon bateau! C'est mon papa et moi, nous l'avons construit ensemble, il m'appartient !» Et l'antiquaire dit « Non, 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 on l'a trouvé, maintenant il m'appartient, il est dans mon antiquité, dans ma boutique d'antiquité. Si vous voulez le récupérer, vous devez l'acheter. » Alors le petit garçon, il aimait tellement son bateau qu'il a demandé à son papa « Est-ce qu'on peut racheter mon bateau ? Récupérer quelque chose par un achat. Oui, oui, on va racheter ton bateau. » Du coup, ils sont allés dans la boutique d'antiquité et ils ont racheté le bateau. Et le petit garçon, il a fait comme ça. « Ah, petit bateau, maintenant, tu es deux fois à moi. » Si tu es racheté par le sang de Jésus, tu es deux fois à lui. Parce que tu lui appartenais au début. Tu lui appartenais, tu étais dans sa gloire. Le péché t'a privé de cette gloire. Mais Dieu a mis un plan en place pour que tu te reviennes à lui. Pour que tu sois deux fois à lui. Mais comme nous avons vu, la gloire de Dieu exige une seule chose. La gloire de Dieu n'exige pas ton argent. La gloire de Dieu n'exige pas tes qualifications. La gloire de Dieu n'exige pas ton emploi. La gloire de Dieu n'exige pas que tu aies bac plus 5. La gloire de Dieu n'exige pas, etc., etc. La gloire de Dieu exige une seule chose, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Éphésiens 1, 7, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés. Il n'y a qu'une seule chose qui peut restituer la gloire de Dieu dans nos vies, c'est le sang de Jésus. Notre valeur, nous parlons de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, notre valeur est telle que la gloire de Dieu est telle, sa sainteté est telle qu'elle aurait pu consumer Moïse. Il faut quelque chose qui soit tellement précieux, aussi précieux que la gloire, pour que nous soyons restitués dans la gloire. Et cette chose si précieuse, cette chose qui n'a qu'aucun moyen du monde peut acheter, c'est le sang de Jésus. Et ce sang de Jésus, il a été versé pour toi gratuitement pour que tu sois restitué dans sa gloire. Alors, nous sommes rachetés du péché par le sang de Jésus. Absolument exact, mais c'est incomplet. Nous sommes rachetés du péché, mais pas seulement. Nous sommes rachetés du péché pour aller quelque part. Nous sommes sauvés de quelque part pour aller quelque part. Nous sommes rachetés du péché pour aller dans la gloire de Dieu. Ça, c'est ta destination. Ta destination, c'est la présence, la magnificence, la splendeur de Dieu, la gloire de Dieu. Et cette première étape qu'il faut que tu fasses, ça a été payé, c'est déjà fait. Si quelqu'un te paye un resto, il te dit c'est déjà fait, est-ce que tu... Ben, si tu ne vas pas manger, ben, tant pis pour toi, mais c'est déjà fait. Il suffit de dire j'accepte et j'y vais. Donc la première étape, c'est la rédemption. Et je vais terminer ici, et après je vais passer la parole à ma femme. Donc si on reprend ce passage de Romains 3, 23, je vais vous donner ma traduction. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous voulez ma version? Parce que moi honnêtement, ça ne me concerne plus. Hein. Moi, je suis lavé dans le sang de l'agneau, ce verset. Moi, je suis justice, je ne suis plus péché. On est soit l'un, soit l'autre. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous voulez la version, Philippe Boulanger? Elle n'a pas encore été ratifiée partout, mais j'y travaille. La version Philippe Boulanger, c'est celle-là. Ceux qui sont rachetés par le précieux sang de Jésus ne sont plus privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu, mais ceux qui sont rachetés par le précieux sang de Jésus ne sont plus privés de la gloire de Dieu. Mais cette gloire, elle est où alors? Ben pour l'instant, elle est à l'état de semence. Mais elle va grandir. Et c'est ce qui s'appelle la sanctification. Et après, elle va devenir glorieuse, totale, complète. C'est la glorification. Retenez ceci, Dieu est appelé le Père de gloire, Éphésiens 1:17. Dieu a envoyé le Seigneur de gloire, Jésus, 1 Corinthiens 2:8, pour que toi et moi soyons restitués dans la gloire. Le Dieu, Père de gloire, a envoyé le Seigneur de gloire pour que toi et moi soyons restitués dans la gloire. Il n'y a qu'une seule chose. Vous savez quoi? L'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu ne répond qu'à une chose, c'est au sang de Jésus. Il n'y a aucune autre chose qui a assez de valeur pour pouvoir compenser avec la gloire. Vous voyez l'image. La gloire est tellement grande, la splendeur de Dieu est tellement grande qu'il faut une équivalence. Il faut quelque chose qui arrive à la gloire de Dieu pour qu'elle nous soit restituée. Et ça, c'est le sang de Jésus. Donc, rédemption, sanctification. Je dis encore une chose. Christ en vous, l'espérance de la... Votre processus a commencé.
On va tourner en Éphésiens 2:10 et continuer dans ce même cheminement. Parce que comme Philippe a dit, on vient de quelque part pour aller quelque part, n'est-ce pas? On est tous d'accord que le salut, lorsqu'on accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, ce n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le début de quelque chose. Donc en Éphésiens 2:10... Paul dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et donc, comme Philippe vient de dire, la prochaine étape de cette restauration de la gloire de Dieu, c'est la sanctification. Et peut-être vous dites, mais c'est quoi la sanctification? Ça fait très, très biblique, très, très spirituel, mais je ne sais pas ce que c'est la sanctification. Une définition que nous, on a pu trouver pour la sanctification, c'est le processus d'établir le caractère de Christ en nous. Et c'est aussi un des premiers points dans la vision de l'Église pour cette année. Établir le caractère de Christ en nous. Mais vous dites, attendez, j'ai mon caractère à moi. J'ai déjà admis que j'étais pécheur, que j'avais besoin de la grâce de Dieu, que j'avais besoin de la rédemption. Je me suis déjà quelque part humilié assez. Mais j'ai mon caractère. Pourquoi est-ce que j'ai besoin du caractère de Christ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin du caractère de Jésus? Parce que nous sommes le sel de la terre et nous sommes censés porter l'odeur de Christ aux gens. Nous sommes censés apporter Christ aux autres. Donc si nous avons encore notre propre odeur à nous, nous ne sommes pas des bons ambassadeurs de Christ. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre personnalité. Dieu vous a choisi. Tournons en 2 Corinthiens 2. Verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Dieu veut que nous transmettions l'odeur de Christ, que nous transmettions le caractère de Christ. Parce que lors de la nouvelle naissance, on a appris que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le tabernacle dont parlait Philippe dans l'Ancien Testament, nous sommes devenus, à la nouvelle naissance, le temple du Saint-Esprit. Et donc cette gloire peut venir et commencer à habiter en nous. La présence de Dieu peut être là, ici, en nous. Mais vous vous dites, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a un changement entre le avant, la nouvelle naissance, et le après? Parce que si le Saint-Esprit vient habiter en nous, il y a un fruit, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une évolution. Tournons en Galates. Je pense que vous pourrez tous le citer, ou la plupart qui ont fait l'école du dimanche au moins. Galates 5. Parce que souvent on dit que c'est les fruits de l'esprit. Mais si vous lisez bien, c'est le fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, dès la nouvelle naissance, dès qu'on a accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, instantanément, nous sommes tous devenus patients, remplis de douceur envers tout le monde, remplis d'amour envers tout le monde. N'est-ce pas? Qui dit qu'instantanément, ils sont remplis de douceur pour tout le monde et de paix, même dans les embouteillages? Quand il y a quelqu'un qui conduit très lentement devant vous et qui ne met pas de clignotant. Ah! Le verset 25 qui suit dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Et on se dit « Mais comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux marcher selon l'Esprit ?» On va regarder 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8 qui va nous éclairer un peu plus sur ce sujet. C'est tellement bon d'avoir la parole de Dieu parce qu'elle nous explique des choses que autrement on n'arriverait pas forcément à comprendre. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous, mais nous avons aussi le manuel. Le manuel de la parole de Dieu qui est là pour aussi nous guider dans toute la vérité. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est de progrès en progrès, mes amis. C'est d'étape en étape, c'est de gloire en gloire. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Nous avons besoin d'y travailler. C'est pour ça qu'on dit que c'est un processus d'établir le caractère de Christ en nous. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas selon le Saint-Esprit qui habite en nous? Pourquoi est-ce qu'on a des excès de colère ou un manque de patience envers nos enfants ou des membres de la famille ou des collègues de travail? Si nous sommes censés être le sel de la terre, la bonne odeur de Christ, partout où nous allons, pas seulement le dimanche matin à l'église, alors comment ça se fait qu'on a encore ces élans et on se dit « mais c'est ce que je faisais avant ». Tout simplement parce que nous sommes un esprit, et c'est là où demeure le Saint-Esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. C'est un sujet qui est aussi détaillé dans les fondements du croyant, je pense à la session 4 ou 5. Mais à la nouvelle naissance, c'est notre esprit qui est né de nouveau. C'est notre esprit qui est régénéré à l'intérieur de nous. Notre âme, notre corps n'a pas changé à la nouvelle naissance. Je suis désolée, mais vous n'avez pas perdu 15 ans lorsque vous êtes né de nouveau. Vous n'avez pas changé de taille, vous n'avez pas gagné un mètre ou perdu un mètre ou changé de couleur de peau. Votre âme et votre votre âme et votre corps sont restés les mêmes. Mais c'est à nous, en tant que nouveaux croyants, de renouveler notre intelligence. Notre éducation, notre culture, elle n'a pas changé. Quand nous sommes nés de nouveau, c'est à nous de le travailler. Et c'est un travail progressif. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ne laissez pas l'ennemi vous décourager en disant « T'as vu, t'as encore fait ça. » Quand tu étais dans le monde, tu faisais ça et là tu le fais encore. Tu t'es encore énervé avec ton mari. Je visais personne. Mais nous avons besoin de permettre à notre esprit de diriger notre vie. Jusqu'à présent, jusqu'à la nouvelle naissance, notre âme, donc notre intelligence, nos émotions et notre corps avaient l'habitude de dire à notre être tout entier ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Selon mon éducation, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Selon une certaine éducation, on vous voit les personnes plus âgées. Dans l'éducation anglophone, il y a « you ». n'y a pas you pluriel et lieu singulier. Donc on tutoie tout le monde. C'est l'éducation. Mais après, selon l'éducation, on doit la renouveler. On doit avoir une éducation biblique. On renouvelle notre intelligence. Retournons en Galates 5. Parce que la parole continue de nous révéler la vérité. Galates 5, 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alors comment est-ce que je peux faire des progrès? Comment est-ce que je peux marcher selon l'esprit? Tournez en Jacques 1. Parce que quelque part, ce que moi je vous dis a de l'importance si vous avez une relation avec moi, si vous me connaissez, n'est-ce pas? Mais si j'étais quelqu'un qui sortait de la rue, qui venait, qui vous adressait, ça n'a pas grande valeur. Mais ce que la parole de Dieu dit, et c'est pour ça que je donne beaucoup de versets, c'est ça qui doit être l'autorité finale dans notre vie. Je veux vous présenter la parole de Dieu pour que vous puissiez saisir cette vérité. Pas que vous dites « Ah, c'est Rebecca qui l'a dit, donc c'est pour ça que je vais le faire. » Parce que peut-être dans 20 ans, vous ne me connaîtrez plus, vous ne savez pas, ou vous allez partir dans un autre pays, être muté, avoir des promotions, amen. Ou peut-être promu et rester sur la Côte d'Azur aussi. Hein. On ne vous envoie pas loin. Mais Jacques 1, 21 dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » On se dit ben, « Mon esprit est sauvé. » Oui, lors de la nouvelle naissance. Mais notre âme a besoin d'être sauvée. Le mot ici, sauvé, c'est un mot grec qui dit sozo. Et ce mot grec veut dire, à plusieurs définitions, c'est sauver, délivrer, protéger, guérir, rendre sain et restaurer. Donc si on prend tous ces mots et qu'on le met dans ce verset-là, il dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui est capable de sauver, de délivrer, de protéger, de guérir, de préserver, de rendre saine et de restaurer vos âmes. » On n'est pas obligé de rester comme on l'a été. Pasteur John a prêché la semaine dernière sur le sujet de changer pour faire la différence. Si vous avez loupé le message, vous pouvez l'entendre sur Internet. Mais on peut changer, on peut évoluer. Et c'est par la nourriture, c'est par l'être ou la partie de notre être qu'on va nourrir le plus, qu'on va changer ou pas. Par exemple, si j'ai un traîneau et j'ai deux groupes de chiens qui sont attachés à deux parties différentes du traîneau, et l'un, c'est l'esprit, et l'autre, c'est l'âme. Qui est-ce qui va me tirer dans quelle direction? Ou qui est-ce qui va gagner si c'est un concours? Celui qui aura le plus de force. Et comment est-ce qu'on donne de la force à un chien de traîneau? On lui donne de la viande, on le nourrit, on le fortifie, on l'édifie. Donc si vous passez tout votre temps en train de fortifier, d'édifier, d'encourager votre âme, qui est bonne, c'est selon la parole. Mais si vous la remplissez de pensées négatives, de films d'horreur, de discussions qui ne sauraient pas avoir lieu d'être, bah c'est votre âme qui va gagner. Si vous fortifiez, vous nourrissez le chien de l'esprit, entre guillemets, si vous nourrissez l'esprit au travers de la parole de Dieu, c'est ce côté-là qui va primer. Amen. Donc c'est notre décision. C'est à nous de mettre en pratique. Le verset 22 continue. Parce que nous voulons le caractère, nous voulons établir le caractère de Christ en nous. Et on va dire pourquoi après, pourquoi on veut l'établir. Verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, et je veux surtout celui-là, souligner celui-ci, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Cela se passe étape par étape, progrès par progrès, de gloire en gloire. Ce sont des étapes. Dieu ne nous a pas demandé d'être parfait une demi-heure, un quart d'heure après la nouvelle naissance. Il nous apprend des choses au travers de notre lecture quotidienne de la parole. Et n'oublions pas les leçons que nous venons d'apprendre juste avant. Parce que souvent, on a une nouvelle révélation sur un sujet de la parole et on oublie tout le reste avant. Non, il faut construire. De Thessaloniciens 2. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement, continuellement, pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par la lettre de la parole de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Rappelons-nous que la rédemption, le plan du salut, rien de ce que vous pouvez faire en œuvre ne vous rendra plus juste aux yeux de Dieu. Comme Philippe a dit, tout a été accompli. Par la grâce de Dieu, par le sang qui a été versé, vous êtes justifiés devant le trône et c'est par le sang de Jésus que vous pouvez vous présenter devant Dieu. Ce n'est pas vos œuvres qui vont changer cela. Mais vos œuvres vont changer l'impact que vous aurez ici sur terre. C'est pour ça. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour ça qu'il y a ce cheminement de sanctification avant la glorification. Quelque part, on peut se dire, ça aurait été plus simple. On est sauvé, on rentre directement au ciel et la glorification. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrances. Mais nous sommes ici pour une raison. Notre sanctification va apporter moins de notre odeur à nous et plus de l'odeur de Christ. C'est ça qui va avoir un impact dans la vie des gens qui nous entourent. Ils ont besoin de Christ beaucoup plus que nous. Mais Dieu a choisi de nous utiliser pour leur parler. Dieu a choisi de vous placer dans vos familles, dans vos lieux de travail, pour que vous puissiez apporter cette odeur de Christ. Donc c'est à vous de le faire. Et personnellement, je veux pouvoir me présenter sainte, sanctifiée devant Dieu, disant, j'ai accompli pleinement ce que tu m'as demandé de faire. Je suis allée jusqu'au bout. Mais la sanctification, c'est ce qui va soutenir l'appel que Dieu vous a donné. Le caractère que vous allez développer, le caractère de Christ, c'est ce qui va soutenir l'appel et la vision que Dieu a mis sur votre vie. On connaît plusieurs personnes dans la Bible. Leur caractère n'a pas suivi leur appel ou leur mandat et ils sont tombés. Et on connaît des gens dans la vie de tous les jours aussi. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'établir le caractère, parce que nous voulons pouvoir dire comme Paul, en 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et c'est l'apôtre Paul qui l'a cité, n'est-ce pas? On ne va pas dire que l'apôtre Paul a eu une course sur une piste de course superbe, lisse, sans aucun obstacle. Vous avez lu un petit peu les légères afflictions dont parle Paul? Il a été battu, il a été lapidé, il a été fouetté, il a été naufragé, etc., etc. Je pense que c'est plutôt une course d'obstacles et il a tenu jusqu'au bout. Mais je pense qu'il est allé, il a vraiment travaillé. Quelques années avant qu'il rentre dans le ministère, où il a vraiment, je pense, travaillé son caractère. Mais ça se travaille tout au long. À nous d'établir le caractère de Christ en nous. Nous pouvons le faire. Personne n'a dit que ce serait simple. Je parlais à quelqu'un cette semaine et elle me disait, j'ai accepté Jésus et je pensais que ça allait être simple. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Mais maintenant, vous devenez un ennemi actif face au diable. Et on veut lui causer du tort, n'est-ce pas? On veut gagner autant de personnes et les emmener avec nous dans la glorification, les emmener avec nous dans la gloire de Dieu, pour que Dieu puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la plénitude de ton maître. Amen. 1 Pierre 1, puis ensuite on va parler de la glorification. ne sera pas très long, la glorification, mais qu'est-ce que ça va être bon. Enfin, ça ne va pas être très long, ce matin. Parce que la glorification, ça va être toute l'éternité. Et vous savez que ce que vous faites ici sur terre va compter pour toute l'éternité. Non seulement les personnes que vous emmenez, mais la fidélité que vous aurez montrée dans votre appel. Parce que je ne pense pas, j'y pensais ce matin en me préparant, je ne pense pas que lorsqu'on arrivera au ciel, on va être des petits anges flottant sur des nuages en train de tchatcher toute la journée. Même ici sur terre, je n'ai jamais voulu être une femme qui ne fait jamais rien et qui reste au foyer. C'est un appel aussi d'élever des enfants. Et je ne dénigre pas ça du tout. Mais j'ai toujours voulu faire quelque chose de même, produire quelque chose, en plus que des enfants éventuellement, mais faire des choses. Et donc toute l'éternité, je ne pourrais pas être là en train de jouer d'une harpe. Je ne suis pas musicale, donc ce serait encore pire. Mais pour vous, mais on est appelé on est appelé à faire des choses. Donc accomplissons notre appel, notre mandat. Certains, c'est dans le ministère. Certains, c'est dans la sphère du travail. C'est dans les politiques, c'est dans les finances, c'est dans l'éducation. Nous avons besoin de bonnes personnes qui ont du caractère, qui vont aller jusqu'au bout dans toutes ces sphères de la société. Dernier verset en 1 Pierre de ma part, puis Philippe va me rejoindre. 1 Pierre 1, 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Nous pouvons le faire, mes amis. Nous pouvons aller jusqu'au bout et nous pouvons établir le caractère de Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ, l'espérance de la gloire. Philippe, si tu veux revenir.
Est-ce que vous avez suivi tout ce qu'on a partagé ? Nous avons été créés dans la gloire. Le péché nous a privés de cette gloire. Mais Dieu avait mis un plan en place avant la fondation du monde pour nous restituer dans cette gloire. Et ce processus de glorification se passe en 3 étapes. Il y a rédemption, facile, il a tout fait, il faut juste accepter. Sanctification, ça c'est plus dur. Ça c'est notre décision. La rédemption, il faut dire oui, ça c'est facile parce qu'il a tout fait et ça c'est, il est le Seigneur. Mais est-ce qu'il est le sauveur de chaque dimension de notre vie ? Ça c'est la sanctification. Et en fait, quand on est sanctifié, on prend la gloire de Dieu et on bénit les autres autour de nous. Et tout ce qu'on touche commence à prospérer parce qu'il y a l'onction qui est sur nous. Nous sommes dans les sphères de la société. Et ça c'est la gloire de Dieu qui se répand. Et nous répandons la bonne odeur de Christ. Et finalement, la glorification, whoop, et là on part. Dernier verset. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5,4. Nous allons prendre la Sainte Cène. Nous allons parler du sang de Jésus, que le sang de Jésus, c'est la seule chose qui peut te faire tenir dans la gloire de Dieu. Donc si vous n'avez jamais été lavé par le sang de Jésus, venez et prenez ces aliments et vous dites, Jésus, j'accepte. J'accepte ton sacrifice, j'accepte ton sang qui a coulé pour moi et je suis purifié pour pouvoir me tenir et être restitué dans ta gloire. Et pour vous qui êtes déjà chrétiens, faites un pas de plus dans la sanctification. Parce que plus vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, mais plus vous allez être une source de bénédiction, vous allez moins batailler avec la chair et vous allez bénir les autres.